Bon réveil à tous, il est 5h.
Reproche des faits que j'ai jamais participé. Comme je dis toujours, j'ai rien à voir là-dedans. Aujourd'hui, je suis prêt à parler pour expliquer que c'est pas moi, tout simplement.
Willy Bardon, à quelques heures de son procès en appel dans l'affaire Élodie Kulik. 19 ans après les faits, 2 ans après un premier verdict de condamnation, l'homme a choisi de parler publiquement. Quel doit être le rôle de l'OTAN aujourd'hui et qui est l'ennemi de l'Alliance Atlantique? Début d'un sommet à Bruxelles, en présence pour la première fois de Joe Biden depuis qu'il est président des États-Unis. Et si on aidait les aidants, nous verrons quelles solutions existent aujourd'hui pour ces salariés qui ont chez eux la charge d'un proche dépendant. Des entreprises se montrent solidaires, très accompagnantes et ainsi plus attractives également.
À suivre le journal des sports, notre pressing du matin et puis nous serons dans l'Oise pour les doigts dans l'assiette. Soyez les bienvenus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'affaire nous ramène en 2002 dans la Somme, un soir de janvier où Élodie Kulik, directrice d'agence bancaire, appelle les secours. Sa voiture vient d'être projetée dans un fossé. Les pompiers entendent ses cris quand plusieurs hommes l'enlèvent. Son corps sera retrouvé 2 jours plus tard en partie brûlé. Des années après, on identifiera un homme par son ADN, mais il était mort entre-temps dans un accident de voiture. Le procès en appel qui s'ouvre aujourd'hui est celui d'un possible complice, Willy Bardon. Plusieurs témoins affirment reconnaître sa voix sur l'enregistrement du coup de téléphone. Il avait été condamné en première instance pour viol, enlèvement et séquestration suivi de mort.
C'était en novembre 2019 et Willy Bardon avait alors tenté de se suicider en avalant un produit pesticide en plein tribunal. Aujourd'hui, il a décidé de s'exprimer publiquement pour réaffirmer son innocence. Lionel Gougelot.
Willy Bardon affirme que s'il a tenté de se suicider à l'énoncé du premier verdict, c'est parce qu'il ne supportait pas d'être accusé d'un crime qu'il assure ne pas avoir commis. Un an et demi après, il dit avoir retrouvé la force de combattre pour clamer son innocence et tenter de démontrer qu'il n'a pas participé au viol et au meurtre d'Élodie Kulik.
On me reproche des faits que j'ai jamais participé. Comme je dis toujours, j'ai rien à voir là-dedans. Aujourd'hui, je suis prêt à parler pour expliquer que c'est pas moi, tout simplement. Et de faire voir aux gens que tout ce qui m'a été reproché, c'est faux.
Pourtant, plusieurs témoins ont formellement reconnu sa voix au milieu des hurlements d'Élodie dans l'enregistrement de l'appel aux pompiers qu'elle avait passé quelques secondes avant son agression. Alors, la protestation d'innocence de Bardon ne fait pas douter Jacky Kulik, le papa d'Élodie.
Bon, personne n'est dupe. Hein. Il a beau essayer de paraître, ses avocats ont beau essayer de le faire passer pour quelqu'un de respectable, c'est pas du tout le cas. Hein. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute. J'en espérais que cette fois-ci, le traitement sera encore plus sévère. Moi, je demande de la perpétuité.
Remise en liberté après le premier procès, Bardon a été réincarcéré il y a quelques jours pour violation de son contrôle judiciaire. Il avait contacté l'un des témoins au procès. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Un procès que l'on suivra jusqu'au 2 juillet.
C'est donc une intense séquence diplomatique qui se poursuit cette semaine après le sommet du G7 au Royaume-Uni où il a été question notamment de la pandémie mais aussi du climat. Place à la rencontre des dirigeants des pays de l'OTAN.
Oui, c'est à Bruxelles que cela se passe. Selon Emmanuel Macron, il faut maintenant que les pays membres travaillent ensemble. Mais pour le chef de l'État, il faut surtout mieux identifier les objectifs de l'OTAN. C'est en tout cas ce qu'il disait en fin de semaine dernière.
Je pense que l'OTAN aujourd'hui est dans une situation qui nécessite une très grande clarification stratégique. L'OTAN a été construite pour faire face au pacte de Varsovie. En tout cas, elle s'est structurée idéologiquement dans ce face-à-face. Il n'est plus. On a besoin de dire qui est notre ennemi et où.
Emmanuel Macron, alors je me tourne vers vous, Isabelle Horry, à Bruxelles, correspondante d'Europe 1. Isabelle, pour les Européens, l'enjeu stratégique du moment, c'est de savoir s'ils se rangent derrière les États-Unis, comme avant Trump, ou s'ils affirment un peu plus leur autonomie.
Oui, c'est clair qu'Emmanuel Macron, lui, veut que les Européens parlent d'égo à égo aux Américains. Il veut un vrai partenariat, pas le retour du grand frère. D'ailleurs, le président a lancé quelques pics ces jours derniers, par exemple sur la Chine, que les États-Unis voudraient faire identifier comme le nouvel ennemi commun. La Chine n'est pas dans la géographie atlantique, ou alors ma carte a un problème, a-t-il fait remarquer lors d'une conférence de presse. Mais pas sûr que ces velléités d'indépendance soient trop du goût des autres Européens, de l'Allemagne notamment. Soulagés, ils veulent d'abord savourer le retour américain. Effacer le traumatisme Trump. En 2018, lors du précédent sommet de Bruxelles, il avait provoqué un esclandre. Contraste, Joe Biden lui a dès hier réaffirmé que la défense d'un allié attaqué restait une obligation sacrée pour les États-Unis. En tout cas, lors de cette journée, les dirigeants doivent jeter les bases du futur concept stratégique de l'Alliance. Quels sont ses nouveaux ennemis? Le cyber, le terrorisme, la Chine, la Russie? C'est le sommet des retrouvailles, mais il y aura du fond aussi.
Isabelle Horry, correspondante permanente d'Europe 1 à Bruxelles.
5h05 sur Europe 1, la suite du journal dans quelques secondes, avec ces entreprises qui veulent faciliter la vie des aidants parmi leurs salariés.
Et puis Thomas Dutronc, un concert ce soir et pas mal d'ironie dans un instant.
À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h14 sur Europe 1. C'est toujours dans le vert, hein. Les indicateurs sanitaires sont encourageants. Moins de patients dans les hôpitaux, moins de malades en réanimation. Ils étaient 2100 hier soir et nous en sommes à un peu plus de 30 millions de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin. À 6 jours maintenant des élections régionales et départementales, Jean-Yves Le Drian ne départage toujours pas ses deux potentiels héritiers en Bretagne, mais le ministre des Affaires étrangères les appelle à s'allier après le premier tour. 60 voix face à 59, le nouveau gouvernement israélien approuvé de justesse par le Parlement. Benjamin Netanyahou n'est donc plus Premier ministre, il est remplacé par Naftali Bennett, 49 ans, homme de droite devenu millionnaire dans la high-tech. Et puis l'Euro de foot, les trois matchs du jour, Écosse-République tchèque à 15h, Pologne-Slovaquie à 18h, Espagne-Suède à 21h.
Europe 1.
Presque 5h15, c'est parti pour le pressing du jour. Avec toute l'équipe autour de moi, Ombline Roche et Martin Lange. Oui. Et on lit les journaux, on regarde d'abord les unes. Et comme un parfum de vacances dans vos journaux ce matin, c'est le titre de La Voix du Nord, le soleil et la chaleur ce week-end. Les vacances à 5 minutes de la maison pour les baigneurs dans le Nord, au bord d'un étang. On rêve aussi de vacances dans le Républicain Lorrain, qui met à la une le bel essor du camping-car. Les ventres partent à la hausse, gage de liberté pour les familles en vue de l'été. Vacances, j'oublie tout, sauf ma deuxième dose de vaccin. Ça, c'est le titre dans Sud-Ouest. Comment concilier ses congés et sa vaccination. En attendant, c'est la dernière ligne droite pour les lycéens. À lire dans l'Alsace, le bac philo jeudi, puis le grand oral les prochains jours vont être chargés pour les élèves de terminale. Et puis l'actualité internationale également à la une, le sommet de l'OTAN, on en parlait dans le journal de 5h. L'OTAN qui cherche à se réinventer, sommet aujourd'hui de l'Alliance Atlantique, le premier de l'ère Biden. Vous lirez un dossier complet dans le Figaro et dans La Croix également avec ce titre, Joe Biden, le rassembleur. Voici les trois histoires que nous avons repérées dans la presse ce matin. Et Ombline, on parle donc de cheval.
Oui, et de cohésion au sein d'une équipe dans le travail. Oui, parce que c'est quelque chose de fragile. Hein. Vous connaissez les team building, tradition, les constructions d'équipe. Ces activités pour prendre conscience qu'il est important de jouer collectif, hein, au sein d'une entreprise. Alors effectivement, j'ai mieux que le Pictionary géant organisé avec les RH et l'équipe compta. Alors si vous sentez, Sébastien, qu'entre vous et Martin, une petite tension est en train de monter, que vous ne retrouvez plus le lien que vous aviez tissé en septembre dernier. Alors voilà ce que vous allez faire. Sébastien, une bombe sur la tête, à califourchon sur le dos d'un cheval, les rênes entre les mains. Et vous, Martin, les yeux bandés. Ah. À côté du cheval, alors gaffe aux pieds parce que le sabot ça fait mal. Et vous laissez guider par la monture et par Sébastien qui guide le cheval. Oui. Et donc tous les trois avec le cheval, vous allez slalomer entre les quilles sur un parcours. Et bien vous allez voir, la confiance va revenir. C'est ce qu'explique Arnaud Camus dans le Figaro. Il est l'un des pionniers du equi-coaching, le cheval au chevet du team building. Et bien cette activité là que je vous ai dit, je viens de vous décrire avec les yeux bandés et l'autre sur le cheval, et bien ça a permis de renouer le dialogue entre deux cadres qui n'arrivaient plus à travailler ensemble, dont la relation était exécrable. Et bien ça fonctionne. Arnaud Camus dispose d'une quarantaine de chevaux. Il explique que cette méthode ne résout pas tous les problèmes de management, mais c'est une aide précieuse. On peut dire beaucoup sur le comportement humain quand on voit une personne interagir avec un cheval. La façon, par exemple, dont cette personne va s'approcher de l'animal. Alors, note importante, pas besoin de s'y connaître en équitation. Donc, si vous ne saviez pas monter à cheval tous les deux, vous inquiétez
pas. Je vous confirme, je ne sais pas trop monter à cheval.
Moi non plus.
Voilà, des salariés dans la nature, sans filtre, qui apprennent, réapprennent à se serrer les coudes quand le cheval se mêle de management. C'est dans le Figaro.
Ils servent à tous les chevaux. Hein. On les envoie dans les maisons de retraite aussi.
Ça marche. Voilà, le contact humain et le contact avec l'animal est toujours bénéfique.
Bon. Autre sujet, le Parisien aujourd'hui en France nous fait découvrir ce matin le supermarché du futur. On le connaîtra peut-être bientôt chez nous. Pour l'instant, il est à Lisbonne. Le journal nous raconte l'expérience bluffante d'un magasin sans passage en caisse, ni produit à scanner. En fait, vous rentrez, vous vous servez, vous partez. Terminé, rien à faire, vous serez débité automatiquement quelques minutes plus tard. Ce magasin, c'est Continental Labs. Il a ouvert fin mai, donc c'est très récent. Alors, à première vue, c'est une supérette, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a tout, sauf des caisses. Donc, vous passez un portique à l'entrée. En fait, il faut simplement avoir téléchargé une application sur votre portable. l'application mobile du magasin dans laquelle vous avez entré vos coordonnées bancaires et le reste se fait automatiquement. C'est votre téléphone dans votre poche qui va vous identifier. Ensuite, vous vous servez en rayon et vous repartez. Les produits que vous avez pris seront automatiquement détectés. Alors, c'est une start-up portugaise qui a découvert, qui a développé cette technologie qui s'appuie sur, attention, 230 caméras installées au plafond qui suivent les clients à la trace.
Oh là là.
Donc, attention, vous êtes pistés. Alors, c'est pas de la reconnaissance faciale, ils essayent de nous rassurer, vous n'êtes pas complètement, c'est pas Big Brother, mais ces caméras vont détecter qui prend quoi dans les rayons, donc elles vont vraiment modéliser tout le parcours que vous allez faire dans le magasin. Les rayons, eux aussi, sont bardés de capteurs, donc du coup, à la fin, il n'y a pas de file d'attente. Les clients sont ravis parce que ça va très vite, vous rentrez, en deux minutes, vous avez chose qu'il vous faut, et vous repartez.
Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on achète. Enfin, on ne sait pas combien on a dépensé. Il n'y a aucun...
On ne sait pas. Je pense qu'il y a une petite alerte
sur le téléphone qui arrive
quelques minutes plus tard. Alors, ça a été range, évidemment, sur l'emploi. Et certains clients se posent la question. L'enseigne tente de rassurer en disant « Non, on a quand même besoin de personnel pour le réassort des rayons. » Le souci, pour l'instant, c'est que la technologie coûte tellement cher que le magasin n'est pas du tout rentable. mais voilà, ils vont essayer de l'élargir. Alors, est-ce qu'on verra ce genre de magasin en France ? C'est pas exclu. Amazon a ouvert aussi des magasins sans caisse en Angleterre. Et cette start-up portugaise dit travailler avec d'autres acteurs de la grande distribution, avec des stations-service aussi, en Europe et notamment en France. Voilà pour la petite visite du magasin du futur, c'est à lire dans Le Parisien et dans Aujourd'hui en France.
Donc le monde de demain, c'est encore moins de contact humain. Parce qu'on garde des salariés, mais c'est juste pour de l'achalandage. Donc on n'a pas de dialogue.
Sauf si vous les mettez, comme certains acteurs de la grande distribution veulent faire, comme conseiller de vente, vraiment dans les rayons, pour vous vendre tel ou tel produit, etc.
D'accord, voilà. Ok.
Mais effectivement, il y aura forcément moins de...
C'est terrible.
Moins non.
On ira faire du cheval.
Ben voilà, s'il vous plaît, pour la cohésion d'équipe.
Le monde change aussi en Chine, Martin.
Tout à fait, avec une conséquence inattendue de l'assouplissement des restrictions familiales en Chine. Rappelez-vous, vous en parlez il y a quelques jours sur Europe 1, les couples chinois peuvent désormais faire un troisième enfant, une révolution au pays de l'enfant unique. L'objectif est de faire repartir la natalité, car la Chine connaît, comme tous les pays développés, un vieillissement de sa population. Mais figurez-vous que cette décision a entraîné une bulle boursière avec l'explosion du cours des produits pour bébés. Par exemple, Goldock Holding, qui fabrique des jouets, a vu son action grimper 10%. Pareil pour Jinfa Labi Maternity, qui fournit des produits de puériculture, et pour des dizaines de fabricants de couches, de lait en poudre ou encore de sièges auto.
D'accord, ça a été mécanique tout de suite, plus d'enfants, bim, produits de bébés.
Exactement.
Sauf que les investisseurs devraient se méfier un peu plus.
C'est vrai, lors du dernier assouplissement, quand la Chine est passée d'un à deux enfants autorisés, eh bien, le taux de natalité a continué à baisser. Sûr donc que les Chinois se ruent sur les produits pour bébés. Ce choc boursier illustre plutôt la volatilité et même parfois l'irrationalité des marchés, prêt à flamber au moindre tweet d'Elon Musk ou Jeff Bezos. La semaine dernière, par exemple, la grossesse d'une femelle panda dans un zoo de Tokyo a fait bondir de 29% l'action d'un restaurant à côté du zoo. Oui, les marchés ont anticipé une explosion du nombre de visiteurs. Ça va quand même assez loin. Ouais. Mais la bulle boursière du baby-boom chinois s'est rapidement essoufflée. La plupart des entreprises ont déjà retrouvé le cours d'avant l'annonce. La Chine autorise 3 enfants par couple. Les actions des produits pour bébés s'envolent. C'est à lire sur Slate.
Voilà. Bon, ça n'a pas duré bien longtemps. Ils sont déjà redescendus.
C'est déjà redescendu. Bon, exactement.
On verra si la natalité chinoise rebondit pour le coup, parce que ça n'avait pas été le cas avec les deux enfants. Merci à tous les deux. C'était le pressing du jour. 5h22 sur Europe 1.
Europe 1.
Et nous partons dans l'Oise dans quelques secondes pour les doigts dans l'assiette. À tout de suite.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Il est 5h23 et pour les doigts dans l'assiette, nous sommes donc dans l'Oise ce matin. Bonjour Luc Smessert.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes notre polyculteur, éleveur à Roy-Boissy, donc dans ce département de l'Oise en Picardie. Comment allez-vous ce matin ?
Ce matin, il fait déjà très beau. Enfin, on a du très beau temps, donc ça fait du bien.
Ah oui, et ça dure depuis un petit moment maintenant. Ça veut dire que ça facilite aussi, j'imagine, tout ce que vous avez à faire sur l'exploitation. Alors ce beau soleil et ces belles températures.
Exactement, et on est en plein dans la période des foins. Ouais. C'est une période stratégique pour notamment l'élevage. Vous avez peut-être pu voir un peu pour tous les auditeurs qui sont dans leur voiture. Vous voyez du foin partout. C'est dans nos pâtures, nos herbages. On récolte, ça dure à peu près, on le coupe et il faut au moins 4-5 jours avant qu'on puisse récolter. C'est ce qui va nourrir tous nos bêtes durant l'hiver. C'est essentiel, avec aussi le maïs en silage, mais en tout cas le foin est une période un peu compliquée. On a un peu stressé là, puisque le temps était moyen vendredi, samedi. Et faut savoir que quand on coupe l'herbe, elle est à 70, 80, 90% d'eau. Et pour qu'elle puisse se conserver, il faut qu'elle soit là à 90% de matière sèche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un effet de température, du vent. Si vous nous voyez des fois avec des engins un peu spéciaux, c'est-à-dire que on fait voler l'herbe, c'est-à-dire qu'on la fait, on la retourne, ça s'appelle on la fait faner, et on passe 3-4 fois. Et quand on pense, c'est un savoir-faire, qu'on est le plus sec possible. Là, on fait des andins, on en fait le plus possible pour pouvoir presser et conserver au mieux avec des ballots rectangulaires, des ballots ronds. Qui fleurissent partout dans nos prairies là.
On les voit dans les champs. Et donc il faut un certain temps entre le moment où vous coupez ces herbes et que vous les ramassez. Il faut que ça sèche. On comprend bien.
Il faut que ça sèche. Il faut pas que ça prenne d'eau parce que.
Et il faut pas qu'il pleuve.
Finalement là. Oui, et puis la richesse d'un foin, c'est justement la diversité qu'on peut avoir dans nos prairies. C'est des graminées, c'est du trèfle, les fameuses les trèfles à quatre feuilles. C'est tous ces ensembles d'espèces qui vont faire la richesse et qui vont faire le bon lait, pour faire le fromage, pour faire les yaourts, etc. Donc c'est très important. Si on a un foin de qualité, on évite de rajouter des concentrés, puisqu'il est naturellement riche en protéines.
Vous en avez assez pour tout l'hiver ? Vous arrivez à tenir ?
Là, hier, on en a, pour nous, fait 17 hectares, donc c'est quand même des grandes quantités avec ça. Et cette année, on a la chance, c'est qu'on a eu enfin les pluies là sur le mois de juin. Et donc avec ça, on arrive à être autonome. Si on fait une bonne récolte comme on est en train de faire en 2021, on va en avoir assez. Ça évite d'acheter et d'être dépendant des marchés.
Voilà pour les foins. Pour le reste, le beau temps, le soleil, la chaleur en cette saison, c'est plutôt bon pour vos cultures, pour les céréales.
Alors, c'est plutôt du bon temps en ce moment, c'est-à-dire qu'on a eu de l'eau. On a là des températures. Il ne faudrait pas la canicule comme les grosses chaleurs annoncées là dans les 2-3 prochains jours. On va être très vigilant puisque on a les grains qui sont en train de se remplir, notamment les grains de blé, les grains d'orge, et il faut donc que ces grains prennent leur temps. On est plutôt un tout petit peu en retard que d'habitude, et donc cette saison, elle est primordiale, c'est-à-dire que nous, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a apporté du semis du blé jusqu'à aujourd'hui, on a protégé s'il y avait des maladies, on a fertilisé, on a amené tout ce qu'il fallait. Et là, finalement, c'est Dame Nature qui fait qu'on va faire ou pas l'année, la bonne année ou la très bonne année.
Bon, écoutez, on vous souhaite que le temps continue à être bon pour vos cultures. Et je vous dis à bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette, Luc Smessert.
À très bientôt, une bonne journée. Et puis, tous mes collègues qui sont justement en train de faire leur foin. Et puis, bon courage parce que c'est des très, très grandes journées.
Bon courage à vous et à bientôt. Il est 5h27 sur Europe 1. Très bon réveil.
Europe Matin, le 5-7.
A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Amsterdam. We'll build it better than we did before. We
Vous allez beaucoup l'entendre cette chanson dans le mois qui vient. C'est l'hymne officiel de l'Euro qui a donc débuté avec la voix de Bono. Vous l'avez reconnu, le DJ Martin Garrix, pour ce titre « We are the people ». Le match France-Allemagne, bien sûr, demain, on va suivre ça. Laurent Cabral est avec nous pour la météo à 5h29. Et ça continue, Laurent.
Ben oui, c'est du très beau temps qui nous est réservé aujourd'hui, avec un soleil omniprésent, avec pratiquement pas de nuages, eu quelques orages peut-être sur les Pyrénées, mais enfin, tout ceci n'a rien d'important. En ce qui concerne les températures, elles sont déjà bien soutenues ce matin, entre 15 et 23 degrés. Il fait 23 à Perpignan, par exemple, à l'heure où nous parlons. Il en fait 18 à Lyon et 15 à Paris. Et dans la journée, entre 26 et 36 degrés. 26 à Caen, par exemple, 29 à Marseille, 30 à Charleville-Mézières, 30 degrés. 30 degrés à Rodez, 31 à Saint-Étienne, 32 à Paris, 33 degrés à Lyon, 34 à Manosque, Angoulême, Périgueux et Toulouse, 35 à Aubenas comme à Brive et Bordeaux et 36 degrés à Carcassonne, à Cahors et Avignon.
Merci à vous Laurent Cabral, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci de nous suivre tout de suite. Un nouveau journal sur Europe 1. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
La dernière ligne droite avant les élections régionales, ce sera dimanche, un scrutin qui s'annonce décisif pour les Républicains. Explication dans un instant. À suivre aussi du changement à la tête des armées avec un nouveau chef d'état-major à partir du mois prochain. Et puis on fait les comptes après 2 semaines de compétition à Roland-Garros, les moments forts, les déceptions jusqu'au sacre de Novak Djokovic hier.
Après le journal, alerte sur les stocks de sang. Les niveaux sont au plus bas et l'établissement français du sang appelle à la mobilisation générale partout en France pour donner afin de tenir l'été. Le président François Toujas est mon invité dans 10 minutes. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un mot que Gérald Darmanin avait repris à son compte il y a près d'un an. Jusque-là, Emmanuel Macron n'avait jamais imité son ministre de l'Intérieur, alors très critiqué jusqu'au sein même du gouvernement pour avoir fait sien un mot prisé de l'extrême droite.
Mais le ton change et après la gifle de la semaine dernière, Emmanuel Macron évoque donc l'ensauvagement actuel des sociétés.
Dans notre pays, on voit une montée des violences. On a tous des raisons qui sont propres à nos pays, mais elles ont deux racines profondes. Les inégalités sécrétées par le fonctionnement de l'économie internationale et l'ensauvagement des discours sur les réseaux sociaux.
Les inégalités et les réseaux sociaux pointés par Emmanuel Macron sur cet ensauvagement, le chef de l'État qui s'exprimait hier en marge du sommet du G7. Nouvelle réunion internationale aujourd'hui, le sommet de l'OTAN pour définir les nouvelles ambitions stratégiques de l'Alliance Atlantique.
La politique toujours est l'heure de vérité qui approche pour les Républicains.
Avec le premier tour des élections régionales dimanche prochain, dernier scrutin avant l'élection présidentielle et gros enjeu pour le parti de Christian Jacob. Pour Europe 1, Aurélie Herbemont.
La droite veut se prouver qu'en matière d'implantation locale, elle est imbattable. Mais pour cela, elle doit garder toutes ses régions. En PACA, Renaud Muselier est menacé par le RN. En Pays de la Loire, la sortante Christelle Morançais est à la traîne dans les sondages. Quant à Xavier Bertrand, il doit gagner largement et proprement, insiste une élue, en clair, sans avoir besoin du soutien des marcheurs. La gestion des seconds tours s'annonce périlleuse. La droite pourra-t-elle se passer de renforts macronistes pour sauver le Grand Est ? Ira-t-elle aider le ministre Marc Fesneau en centre-Val de Loire ? S'il est le mieux placé pour ravir la région à la gauche et empêcher une victoire du RN, un comité stratégique devra trancher ces questions lundi prochain, alors que ces régionales pourraient être lourdes de conséquences. Si des régions tombent au RN, s'inquiète un député, je n'exclus pas que des élus LR travaillent avec eux, poussant d'autres à se rapprocher des marcheurs. Un dirigeant a déjà des sueurs froides, on peut passer l'été à se faire écarteler entre Macron et Le Pen.
Elle arrive au Sénat à partir d'aujourd'hui et pour 2 semaines, la loi climat issue de la Convention citoyenne. D'ores et déjà, en commission, le délit d'écocide pour atteinte à l'environnement a été supprimé. L'écotaxe régionale pour les poids lourds, mise entre parenthèses.
Un nouveau patron pour les militaires le mois prochain. Le général Lecointre s'apprête à céder son poste de chef état-major des armées après le 14 juillet.
Il sera remplacé par le général Thierry Burkhard à la tête jusque-là de l'armée de terre. Âgé de 56 ans, ancien légionnaire, Syrien, l'homme est reconnu pour sa vision stratégique, comme en témoigne Christophe Gomard, ancien directeur des renseignements militaires.
Thierry Burkhard avait dit effectivement qu'il fallait que l'armée de terre se prépare à une guerre de plus haute intensité. Depuis quelques années, effectivement, l'armée française est engagée dans des conflits que je qualifierais du fort au faible, c'est-à-dire face à des adversaires qui soient moins armés et sans doute moins nombreux. Il est logique qu'une armée se prépare au conflit le plus dur. Et qu'elle s'équipe en conséquence. Il était de son rôle, en effet, de dire ça et de dire à son armée de terre, dont il était responsable de l'entraînement et de la formation, de s'entraîner pour une guerre qui soit la plus difficile possible. Même si, et on espère, que ce conflit d'intensité n'arrivera jamais. Le général Burkhar est un général qui est parfaitement apprécié dans les trois armées, et je pense qu'il sera tout à fait au niveau de la tâche qu'il attend, qui est une tâche difficile et compliquée, parce que le monde dans lequel nous vivons est complexe. On est dans un monde qui est en crise en réalité.
Christophe Gomard, ancien directeur des renseignements militaires, joint pour Europe 1 par Yasmina Katou. Le procès en appel de Willy Bardon à partir d'aujourd'hui devant les assises de Douai. Procès pour le viol et le meurtre d'Élodie Kulik dans la Somme en 2002. Willy Bardon, qui clame son innocence, avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en première instance.
Enfin, au lendemain du sacre de Novak Djokovic, Roland Garros à l'heure du bilan.
Un bilan qu'on va faire avec vous, Corinne Boulou. Vous nous avez fait suivre la compétition sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros, tout au long de cette quinzaine marquée notamment par de nombreuses surprises.
Eh bien, au rang des surprises, les abandons en cours de tournoi de la numéro 2 mondiale, Naomi Osaka, et de Roger Federer. Le couac du tennis français, plus personne après le deuxième tour en simple à Roland-Garros, du jamais vu depuis 1968. Le clan français qui s'est consolé en fin de tournoi avec le titre en double de la paire Herbert Mahut, avec le titre junior de Lucas Van Hache, sans oublier le titre en double junior aussi.
Et certaines images, Corinne, resteront aussi.
Oui, difficile d'oublier ces sessions de nuit à huis clos et ces évacuations de spectateurs pour faire respecter le couvre-feu à 21h puis à 23h, sans oublier la dérogation de dernière minute pour permettre au public fasciné par l'intensité du plus beau match du tournoi entre Nadal et Djokovic de rester en tribune. Que dire aussi de l'émotion de la Tchèque Barbora Krejčíková, gagnante surprise chez les dames, et des larmes de Stefanos Tsitsipas lors de sa qualification pour sa première finale en Grand Chelem. C'est toute la magie d'un tournoi comme Roland-Garros.
Le bilan de Roland-Garros avec Corinne Boulou et puis l'Euro de football avant la France demain contre l'Allemagne. Les matchs du groupe E avec notamment aujourd'hui l'affrontement entre deux équipes dont la préparation a été perturbée par plusieurs cas de Covid. Espagne-Suède, c'est à partir de 21h. Au programme aussi Pologne-Slovaquie à 18h et Écosse-République tchèque à 15h.
Marion Calais pour le journal, il est 5h37 sur Europe 1. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
C'est sur l'hippodrome de Caen que va se courir ce Quintet, une course aux trois attelés qui réunira 14 chevaux, répartis sur deux poteaux différents de départ, 2450 et 2475 mètres. Malgré la difficulté de rendre la distance sur cette piste, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection les numéros 11 Diamond Charm, 12 Cesario Bello et 14 Comte des Titets, qui en dépit de leur handicap de 25 mètres, me semblent être trois bons favoris, jugés sur ce qu'ils ont réalisé de mieux, mais aussi de leur aptitude au parcours corde à droite qu'ils emprunteront cet après-midi. On leur opposera Draga du Châtelet, le numéro 4, en forme et qui aura l'avantage de s'élancer en tête, avec Expresso Good, le numéro 6, lui aussi bien engagé et qui n'a besoin de personne pour imprimer son rythme. Enfin, les numéros 5, DS de Cordet, 1, Dey de Bellouette et 10, Dame d'Enfer ne sont pas incapables de s'immiscer à l'arrivée de ce quintet à une cote spéculative. Mon pronostic, 11, 12, 14, 4, 6, 5, As et 10.
Merci à vous Thierry Léger et tous vos pronostics sont à retrouver sur Europe1.fr. Europe 1. Il est 5h38 sur Europe 1 et j'accueille le premier invité du 5-7. Bonjour François Toujas.
Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, merci. Vous présidez l'établissement français du sang. C'est l'organisme qui recueille les dons de sang et c'est un appel urgent que vous lancez. Appel à la mobilisation des donneurs car les stocks sont au plus bas. Vous allez nous expliquer tout cela dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h20 sur Europe 1, le premier invité du 5-7 est avec nous, c'est le président de l'établissement français du sang, François Toujas. Vous lancez donc cette opération destinée à encourager le don du sang. Pourquoi cet appel à la mobilisation des donneurs? Quelle est la situation des stocks?
Écoutez, en ce 14 juin, qui est effectivement la journée mondiale des donneurs de sang, la situation n'est pas bonne. Nous avons des stocks qui, malgré des appels répétés aux dons, ne remontent pas. Nous sommes à moins de 85 000 stocks de globules rouges. Nous avons besoin de sang dans les hôpitaux et donc nous appelons une mobilisation forte notamment pour remonter ses stocks avant la période estivale.
Qu'est-ce qui a posé problème? C'est ce contexte sanitaire de crise du Covid qui a ralenti les dons?
Alors, le contexte sanitaire de la Covid a été effectivement extrêmement difficile. Il a été notamment difficile pour nous pour une raison essentielle, c'est que beaucoup de nos collectes étaient déployées soit dans les entreprises, soit dans les universités ou les écoles. Cette collecte pouvait représenter environ 25 à 30% de notre offre de collecte. Et il est vrai qu'avec le confinement et la fermeture de ces universités ou écoles, nous avons dû redéployer une partie de cette offre, mais nous n'avons pas pu retrouver la totalité des donneurs. Et donc, il est important de dire que nous devons nous mobiliser parce que par ailleurs, cette période est aussi aujourd'hui une période de rattrapage de certaines opérations dans les hôpitaux qui consomment beaucoup de sang et nous devons donc améliorer très rapidement notre niveau de stock.
Quel est le risque finalement si les stocks ne remontent pas suffisamment? Le risque c'est qu'on ne puisse plus soigner?
Si nous n'avons pas assez de sang, nous ne pourrons pas prendre en charge la totalité des patients qui en ont besoin. L'enjeu, il est là, il est dans la sécurité transfusionnelle que nous devons, en pouvant en permanence donner aux patients qui en ont besoin les produits sanguins nécessaires.
Alors vous lancez donc cette opération, prenez le relais à l'occasion de cette journée du 14 juin, vous le disiez, qui est la journée mondiale du don du sang. En quoi va consister cette opération?
C'est une opération qui s'appelle Prenez le relais, un mois pour tous donnés. Il s'agit pour nous de déployer plus de 6000 collectes sur l'ensemble du territoire, de prendre des rendez-vous, d'aller aussi sur nos collectes sans rendez-vous. Nous avons par ailleurs une campagne publicitaire que vous avez peut-être vue. Il s'agit pour nous de mobiliser le maximum de donneurs pour que nous puissions, à la mi-juillet, pouvoir disposer d'environ 120 000 stocks de sang, alors que nous ne sommes qu'à moins de 85 000 aujourd'hui.
L'été, c'est une période traditionnellement compliqué pour justement le don du sang. On a peut-être un peu tous l'esprit ailleurs, peut-être encore plus cette année avec le déconfinement.
Période de basse eau, je vais dire, pour le don du sang. C'est pour la raison pour laquelle nous attendons avant l'été environ 300 000 donneurs. C'est important que de pouvoir bénéficier du niveau de produits sanguins nécessaires avant cette période, effectivement.
Est-ce que vous avez besoin de donneurs au profil particulier? Est-ce qu'il y a des conditions d'âge, de groupe sanguin, par exemple?
Alors, nous avons besoin de tous les groupes sanguins, même si les groupes O et les groupes B sont aujourd'hui dans une situation particulièrement tendue en termes de réserve. Je rappelle également que pour donner son sang, c'est pas compliqué. Il suffit d'être en bonne santé, d'avoir plus de 18 ans, moins de 70 ans, de peser plus de 50 kilos. Et donc, chacun et chacune qui a ces éléments peut venir donner son sang.
Est-ce qu'il faut faire un test Covid avant?
Pas de test Covid à faire. Et d'ailleurs, je voudrais préciser les choses suivantes. On peut venir donner son sang si on a eu le Covid 14 jours après la disparition des derniers symptômes. On peut venir si on est vacciné. On peut venir si on n'est pas vacciné.
Alors, soyons précis jusqu'au bout. François Toujas, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ou est-ce qu'on trouve les points de collecte les plus proches de chez soi?
Alors, on va sur l'application Mon rendez-vous don de sang, sur l'adresse du site de l'établissement français du sang, et on trouve l'ensemble des éléments permettant de voir où est la collecte la plus proche.
Et pour vous, il est décisif de reconstituer ces stocks de sang aujourd'hui, justement pour tenir l'été?
Nous allons tous partir en vacances, et c'est très bien, et bravo. Les maladies ne prennent jamais de vacances. Ça veut dire que nous sommes toujours obligés de constituer les réserves nécessaires pour prendre en charge des patients qui malheureusement ont besoin de ce sang. Et donc mobilisons-nous tous pour ce don, et ce jusqu'à la fin du mois de juillet pour que nous puissions avoir les collectes les plus importantes. Je rappelle également que pendant l'été, nous aurons aussi des collectes estivales et j'engage tous nos concitoyens et concitoyennes à venir également s'ils voient une collecte mobile sur une des plages ou pas loin des plages où ils sont.
Et bien voilà, c'est noté donc pour ces collectes et cette opération. Donc prenez le relais un mois pour tous donner, donc un mois de collecte partout en France pour reconstituer les stocks et partir en vacances sereinement. Merci à vous, François Toujas. Je précise que vous êtes le président de l'établissement français du sang. Très bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Europe 1.
Il est 6h moins le quart sur Europe 1 et c'est l'heure de continuer notre tour de France pour mettre en lumière ceux qui font bouger la France. Avec vous, Aurélien Fleurot, où est-ce qu'on va ce matin ?
Direction l'Isère pour parler emploi et économie circulaire avec la toute première école de formation au métier du recyclage dans l'industrie automobile.
A tout de suite sur Europe 1. Très bon réveil.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h47 sur Europe 1. Il était attendu en France aujourd'hui, mais après une escale à Singapour, Rémi Daillé, qui est soupçonné d'être mêlé à l'enlèvement de la petite Mia, n'a pas repris l'avion. Sa femme, qui était à ses côtés, a été hospitalisée pour des douleurs liées à sa grossesse. C'est une organisation qui a plus de 70 ans. Aujourd'hui, il sera question de ses nouvelles ambitions stratégiques. Le sommet de l'OTAN à Bruxelles, avec un probable message de fermeté envoyé notamment vers la Russie. Et puis en Israël, scène de liesse hier à Tel Aviv et Jérusalem. Le pays tourne la page. Netanyahou, après 12 ans de règne, il est remplacé par une coalition de 8 partis emmenée par l'ultranationaliste Naftali Bennett.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
On écoute le monde changer et on écoute la France bouger avec vous, Aurélien Fleureau. Nous allons donc dans l'Isère pour La France Bouge. Isère, ce département va ouvrir la première école pour se former au métier d'une filière en pleine transformation, le recyclage automobile.
Oui, puisque les voitures sont en train d'évoluer comme jamais, tous les métiers de l'industrie automobile se doivent d'accompagner ces changements. Voitures électriques, économie circulaire, importance grandissante du recyclage. Voilà pourquoi l'entreprise Indra Automobile, basée à Villefontaine en Isère, vient d'annoncer qu'elle allait créer Oreca, cette première école en France, un centre qui va proposer des formations, notamment pour des métiers techniques, le démontage automobile, la dépollution, la pièce de réemploi ou encore le traitement des déchets.
Ça n'existait pas jusque-là ? On ne recycle pas dans l'automobile ?
Alors, le recyclage existe, mais là, c'est vraiment une étape supplémentaire pour monter en compétences. Pour l'instant, il existe des ateliers de formation. Là, ce sera le début d'une filière professionnelle pour des métiers qui seront de plus en plus recherchés. Je vous parlais de véhicules électriques, mais il faudra aussi très rapidement trouver comment optimiser le recyclage des vieilles voitures, diesel ou même essence, qui sont encore en circulation, mais qui seront bientôt, petit à petit, bannis de plus en plus de villes avec l'extension des ZFE, les zones à faible émission.
Donc là, il s'agit de voitures en fin de vie, mais pour la remise en état de voitures d'occasion, là, il y a beaucoup d'initiatives.
Oui, effectivement, ce sont des centres de reconditionnement. Ils se multiplient, là aussi, en forme à de nouveaux métiers. Et c'est crucial pour le secteur automobile, avec la fin progressive du diesel. Dans quelques années, l'essentiel des voitures d'occasion seront hybrides, électriques. Et là aussi, il faut former les salariés. C'est ce qui est en train de se passer à l'usine Renault de Flins, dans les Yvelines, mais aussi dans des centres de reconditionnement, comme celui d'Aramis Auto, dans la Drôme, ou celui du groupe Émile Frey, dans la Vienne.
Voilà, le monde change et les métiers aussi. Et effectivement, c'est important de former à ces nouveaux métiers. Aurélien Fleureau pour La France Bouge. Il est 6h10. Et nous allons regarder les réseaux sociaux comme chaque matin avec vous, Martin Lange.
Oui, Sébastien, et ce matin, je vous parle de l'image du week-end. Le joueur danois Christian Eriksen qui s'effondre sur la pelouse de Copenhague, victime d'un arrêt cardiaque en plein match. Ses coéquipiers qui l'entourent, les soigneurs qui lui prodiguent un massage cardiaque en direct devant des millions de téléspectateurs. Des images glaçantes qui ont suscité une vague d'émotions sur les réseaux. D'abord dans le monde du foot, évidemment, un club, joueur, fédération, tous ont partagé leurs pensées ou leurs prières pour le Danois. Que dire aussi du comportement des supporters finlandais? Ils ont prêté un drapeau pour protéger Eriksen lors de sa sortie du terrain. Ils ont aussi chanté en chœur avec les Danois pour lui rendre hommage. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. L'émotion a aussi largement dépassé le cadre du foot. Même le maire de Milan, la ville où joue Eriksen, s'est fendu d'un message d'encouragement.
Un arrêt cardiaque en plein match, image marquante et qui suscite aussi des questions et des débats.
Oui, tout à fait. D'abord, fallait-il montrer ces images ? Twitter, par exemple, a choisi de bloquer toutes les vidéos, pas les chaînes de télévision qui ont montré toute la séquence. Ce qui a le plus choqué, ce sont les plans sur la campagne d'Eriksen en larmes. Voyeurisme pour certains, indécence pour d'autres. Le réalisateur, il ne veut pas nous faire des ralentis aussi, s'indigne par exemple Charlie. Mais qui gère la réalisation, c'est très grave. Ces commentaires ont obligé le réalisateur du match, Jean-Jacques Amsalem, à s'expliquer dans une interview au journal L'Équipe. Autre débat sur les réseaux, la reprise du match, 1h50 après l'interruption. Les deux équipes sont retournées sur la pelouse. Les Danois, forcément chahutés, ont perdu. Alors fallait-il rejouer ? Beaucoup d'internautes estiment que non. Et pointent du doigt l'UEFA, qui préfère toujours les revenus d'un match à la santé des joueurs, pour caricaturer. Sauf que visiblement, ce sont les Danois. danois qui ont demandé de reprendre après qu'Eriksen leur ait donné de bonnes nouvelles par téléphone. Ce matin, c'est d'ailleurs le soulagement qui domine. Eriksen va bien. La fédération danoise a donné de ses nouvelles hier. Il n'aura pas de séquelles, mais risque de voir sa carrière s'arrêter.
Voilà, il va bien et c'est bien le principal après ce malaise cardiaque. Sachez que Jimmy Mohamed, tout à l'heure, le docteur Jimmy Mohamed reviendra sur ce qui a pu se passer en termes de santé dans sa chronique tout à l'heure avec Mathieu Béliard à 8h30. Martin Lange, merci à vous, 5h52. On de la raconte à 14h sur Europe 1 avec l'histoire du jour, celle de Maëva Rousseau. En 2012, à Chérance, dans le Val d'Oise, Maëva Rousseau est retrouvée morte près de son bébé vivant. Voilà une douloureuse histoire que vous entendrez, dont vous entendrez le récit dans On de la raconte tout à l'heure, donc à 14h, et que vous retrouvez dès maintenant sur Europe1.fr.
Europe 1.
Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À notre planète, à suivre, à tout de suite, 5h53.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Il est 6h05 et Fanny Agostini est avec nous pour des solutions positives chaque matin pour notre planète. Fanny, on découvre aujourd'hui que d'anciens bateaux de course au large se reconvertissent en bateaux de transport de marchandises.
Ils ont fait le Vendée Globe ou la route du Rhum et aujourd'hui ils transportent alcool, huile ou chocolat. Ces bateaux de course qui autrefois traversaient l'Atlantique pour le sport le font désormais pour faire transiter la marchandise de part et d'autre de l'Atlantique. Mais l'originalité, c'est que l'équipage à bord est composé de jeunes skippers qui se servent de ces bateaux à voile pour s'entraîner en vue des futures courses. C'est un nouveau concept qui permet un entraînement intelligent. Plutôt que de naviguer à vide, les bateaux deviennent aussi des transporteurs.
Mais ça peut être rentable, ce sont des bateaux de course, mais tout de même, ils vont forcément moins vite que les gros porte-conteneurs.
Alors, il faut le savoir, un porte-conteneur peut transporter 22 000 caisses et faire la liaison transatlantique en 10 jours, alors qu'un bateau à voile mettra 6 semaines pour aller des Antilles à la Bretagne et ne pourra transporter que 40 tonnes. Mais la valeur ajoutée est ailleurs. Dans ce nouveau monde, le consommateur est en quête de respect de l'environnement et il peut s'assurer que sa tablette de chocolat ou sa bouteille de vin sera sans carbone. Surtout quand on considère que 90% des produits sont acheminés par le fret maritime sur des bateaux nourris au pétrole, on comprend bien l'intérêt de hisser de nouveau les voiles pour être en phase avec la problématique climatique.
Oui, évidemment. Et certains de ces bateaux à voile font même bien mieux que du transport de marchandises.
C'est le cas de Galant, un vieux gréement qui est le seul à combiner commerce à la voile et expédition scientifique. Une démarche pleine de sens et qui permet de décupler le plaisir de consommer des produits venus du bout du monde. D'ailleurs, soyez attentifs aux étiquettes, car c'est assez nouveau, vous pourrez le remarquer par une petite pastille sur laquelle figure un bateau à voile, notamment sur les emballages de café, chocolat et sucre, ainsi que sur les bouteilles de vin.
Voilà, une pastille avec donc un bateau à voile pour signaler donc que ces marchandises sont arrivées. Comme ça, sans CO2, par la voile. Merci à vous, Fanny Agostini, notre planète, chaque matin. Il est 5h57.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Et je vous souhaite la bienvenue sur Europe 1, hein, si vous nous rejoignez en ce lundi matin, lundi 14 juin. Ravi de vous retrouver pour ce 5-7. Il est presque 6h du matin. On va voir si la météo estivale va continuer dans quelques secondes avec Laurent Cabrol. D'abord, je vous donne un petit mot du programme ce matin. Et d'abord, cette phrase de Joe Biden.
The United States is back.
L'Amérique est de retour. Voilà ce que dit le nouveau président américain. Voilà ce qu'il a dit en mettant le pied sur le sol européen il y a quelques jours. Et après le G7, c'est le sommet de l'OTAN qui s'ouvre. Sommet des retrouvailles, le premier de l'après-Trump. Une nouvelle ère. Que change la position américaine dans cette alliance atlantique qu'Emmanuel Macron annonçait, souvenez-vous, en état de mort cérébrale. C'était l'an dernier. On va décrypter tout cela avec mon invité à 6h40, Bruno Tertrais de la Fondation pour la Recherche Stratégique. D'ici 7h, tous vos rendez-vous habituels, l'innovation du jour, Anissa Mbida, la revue de presse internationale, et puis notre respiration musicale du matin. Vous avez reconnu Jamiroquai, célèbre pour ses chapeaux haute forme, ses coiffes en plumes. La rencontre du funk et de la musique jazz, le récit des débuts de Jamiroquai, c'est à 6h20. La partition avec Omblin Roche. Et Laurent Cabrol nous a rejoint pour une météo qui reste estivale aujourd'hui encore, Laurent.
Oh oui, Sébastien, oui, tout à fait. Alors, je parlerai beaucoup plus de température que de couleur du ciel, vous l'avez compris, la couleur du ciel, il n'y a rien à dire, il fera beau partout. C'est vraiment exceptionnel, mais il fera beau partout aujourd'hui et demain. Alors, les températures, grande amplitude à l'heure où nous parlons. Il fait 8 degrés seulement à Reims, oui, mais 25 à 7 et le 4 à côté de Perpignan, 23 à Biscarrosse et en passant par 16 à Rennes, 17 à Nantes et Paris. Alors toujours à cette heure-là, à 6h, 20 à Cognac, 21 à Bordeaux, 22 à Marseille. Dans l'après-midi, eh bien, nous aurons également une amplitude, mais beaucoup moins importante. Grâce au vent de mer, Nice, Biarritz et Caen seront des villes, disons, respirables, 25-26. 29 à Marseille, aussi grâce au vent de mer. 29 à Lille. Et puis 30 degrés à Colmar, La Rochelle. 31 à Paris et Rennes. Oh, c'est de la forte chaleur, ce n'est pas énorme. Hein. 32 à Poitiers et Limoges. 33 à Lyon. Et puis nous arrivons aux fortes chaleurs cette fois, c'est-à-dire à partir de 35 degrés. C'est comme ça qu'on on donne les très fortes chaleurs. 35 donc à Toulouse, Cahors, Castelnaudary, Alès, Bergerac, Bordeaux qui seront les villes les plus chaudes. Nous n'avons pas encore bien sûr de canicule, on ne parle pas de canicule, on en parlera si jamais ces températures persistent pendant plus de 3 jours, mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes là à la chaleur et à la très forte chaleur et ce sera une belle journée pour nous tous. Si vous aimez le soleil et la chaleur, vous serez servi. Si vous l'aimez moins, eh bien, il faut trouver un moyen de s'abriter.
Voilà, en attendant que ça redescende parce que je crois que ça arrive, ouais, vous nous direz ça tout à l'heure.
Mercredi, oui.
Voilà, mercredi. A tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.